Bonsoir et bienvenue à la tribune de la presse ce vendredi 14 mars 2008. Trois thèmes ont été retenus. La poursuite du démantèlement des quartiers généraux du mouvement politico-religieux Bunduya Congo par la police nationale congolaise, mais aussi la poursuite des affrontements Nord-Kivu entre les miliciens du PARECO et les FDLR, ainsi qu'avec les FARDC. Enfin, comme troisième thème, nous parlerons du sommet des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC, tenu à Kinshasa, le lundi 10 mars dernier. Nous analysons ces thèmes retenus avec trois confrères, Nikès Kibelbel du journal Les Coulisses de Béni au Nord-Kivu, il intervient depuis Béni, Bouyal Mangal, analyste politique à la télévision nationale RTNC, et Ludor Balekelaï, journaliste présentateur au sein de la chaîne de télévision privée de Kinshasa, Congo Web. Le premier thème de cette tribune de la presse est le démantèlement par la police nationale congolaise des quartiers généraux du mouvement politico-religieux Bunduya Congo. Des coups de feu ont été entendus depuis ce matin à Kisantu, à près de 245 km de Matadi dans le Bas-Congo. Le bilan n'est pas connu pour l'instant, mais les activistes des droits de l'homme affirment que quelques personnes présumées adeptes du Bunduya Congo ont été tabassées par les forces de l'ordre. Par ailleurs, un policier soupçonné d'être adepte du Bunduya Congo a également été tabassé par ses collègues. Signalons que c'est depuis trois jours que la police nationale congolaise a assiégé le lieu du culte du mouvement politico-religieux Bunduya Congo. Pour l'heure, les autorités politico-administratives de Kisantu sont ingéniables. Notez aussi que la police a saccagé ce vendredi quelques habitations dans le quartier Bulumba de la ville de Mwanda, y compris celle de Nembenza, supposé être le responsable numéro 1 du Bunduya Congo dans cette localité. Vers 1h du matin, la police avait déjà détruit le Zikwa, ou lieu de prière de Bunduya Congo. Pour sa part, Mwanda Kowalonsele, administrateur du territoire de Mwanda, affirme que la police ne s'est attaquée qu'aux habitations qui abritaient des Makessa ou bras armés de Bunduya Congo. En outre, les habitants affirment que la police a commis des exactions sur des paisibles citoyens. La MONUC va enquêter sur les violations des droits de l'homme dans la province du Bas-Congo. L'annonce a été faite mercredi matin par le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RD Congo au cours de la conférence hebdomadaire de la MONUC. Dans son adresse, Alain Doss a appelé le gouvernement congolais d'éviter l'utilisation exagérée de la force et aux adeptes de Bunduya Congo d'éviter la propagation des messages de haine. Les propos d'Alain Doss ont été recueillis par notre consoeur Jocelyne Moussaoupondé.
Nous attirons l'attention des autorités sur la nécessité d'éviter un usage excessif de la force qui risque d'aggraver la situation. De son côté, le BDK doit éviter de diffuser des messages xénophobes et de s'abstenir de toute violence. La MONUC a déjà déployé des unités additionnelles sur le terrain et continue de surveiller la situation de près. La MONUC enquêtera sur les allégations de violations de droits de l'homme qui ont pu être commises au cours de ces récents événements au Bas-Congo. Je profite de cette occasion pour solliciter la coopération de toutes les autorités concernées et le BDK pour le bon déroulement de l'enquête. La mission de l'ONU est déjà sur le terrain pour évaluer les besoins humanitaires de la population africaine.
Ludor Balekelaï, vous êtes journaliste présentateur au sein de la chaîne de télévision privée de Kinshasa, Congo Web. Comment vous réagissez par rapport à cette évolution de l'actualité au Bas-Congo où la police congolaise se met à démanteler les quartiers généraux de Bunduya Congo dans différents coins de cette province?
Bon, je pense que dans un tout premier moment, nous ne pouvons pas encourager des dérapages s'il y en a, ou si, comme nous l'avons suivi dans l'un des éléments sonores, il y a eu, on a troublé des paisibles citoyens qui ont été objets peut-être des brimades et consorts. Moi, je pense que la police nationale congolaise est une police professionnelle dans la mesure où Et là, j'ai suivi plusieurs formations pour pouvoir faire face à ces genres de situations. Nous pensons que l'utilisation des méthodes beaucoup plus fortes et disproportionnées, notamment les armes, n'est pas une bonne chose, mais il y a toujours des méthodes que cette police peut utiliser pour justement rétablir l'ordre et l'autorité de l'État, parce que c'est ça.
Quelle méthode, par exemple?
Non, en fait, il y a au sein de la police, il y a beaucoup de méthodes en dehors des armes. Il y a des grenades lacrymogènes pour disperser les troupes et beaucoup d'autres matériels dont dispose la police pour pouvoir faire face à cette situation. Mais tuer, je pense que ce n'est pas une très bonne chose.
Mais si s'avère que les adeptes de Bundu Dia Kongo sont armés d'armes blanches ou même de fusils de chasse traditionnels qu'on appelle
des armes à feu, tout à fait, oui. Il semble, on a vu même à la télévision, que les adeptes de Bundu Dia Kongo disposent des armes à feu qu'ils utilisent aussi pour se défendre face à la police. En ce moment-là, je crois qu'on se retrouve en cas de légitime défense, mais la meilleure des choses, c'est de pouvoir comprendre que cette situation, comme l'avons dit au cours de notre émission de la fois passée, c'est une situation qui a perduré, donc on n'a pas pris vraiment des mesures, des dispositions nécessaires avant pour éviter le pire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les adeptes de Bundu Dia Kongo, même ceux qui n'ont pas utilisé les armes, les flèches et d'autres méthodes vraiment non appropriées pour s'attaquer aux forces de l'ordre, sont aujourd'hui en proie à une certaine exclusion de la population. La population qui a beaucoup souffert, qui a supporté les sévices des adeptes de Bundu Dia Kongo aujourd'hui, est en train de s'en prendre aux autres adeptes qui ne se sont pas montrés agressifs vis-à-vis et de l'État et vis-à-vis des forces de l'ordre.
Et en cela, la police est aussi d'être piégée.
Voilà, la police est piégée. Quand elle se retrouve, par exemple, devant 300 personnes, comme c'est ça la stratégie d'après ce qu'on rapporte dans le camp du BDK, ils se regroupent 300, 200 personnes, face par exemple à 30 ou 40 policiers. Je crois que dans ce cas-là, la police, comme le gouverneur l'a dit à tort ou à raison, la police arrive à paniquer et à ouvrir le feu, ce qui n'est pas une bonne chose. Mais je pense ici, pour terminer, Claude, que on dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, mais qu'il n'y a que de mauvais chefs. Aujourd'hui, ce sont les adeptes de Bundu Dia Kongo que la police est en train de poursuivre. Mais le leader même de ce mouvement, qu'est-ce qu'on fait de lui? Alors, ce sont les adeptes qui ont, qui sont arrivés à injurguter une idéologie de ce mouvement-là qui paye les frais aujourd'hui, et le responsable, lui,
il court
les rues. Oui, il vit d'une certaine humilité, personne n'en parle. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on fasse la part des choses. Il y a des victimes qui vont succomber pour rien, alors qu'on connaît très bien la cause, on connaît bien le responsable direct ou indirect de tout ce qui se passe dans le Bas-Congo.
Merci beaucoup, Ludor Balekela. Nous avons également dans ce studio notre confrère Mouyal Mangal. Vous êtes analyste politique à la Radio-Télévision Nationale, précisément la Télévision Nationale RTNC. Est-ce que l'option prise par le gouvernement est maintenant de démanteler le mouvement politico-religieux Bundu Dia Kongo sans que cela ne soit dit officiellement?
Bien, c'est une initiative qui vaut la peine. Ça veut dire que la situation a toujours existé. Qu'on arrive aujourd'hui à identifier qu'il y a des espaces que Bundu Dia Kongo habite, c'était réservé. On peut même se poser des questions. Depuis quand date ces camps-là? Depuis quand on a construit ces camps et à quel moment l'État n'avait jamais existé dans le Bas-Congo pour que les services de l'État, les services de sécurité particulièrement, ne parviennent pas à informer les gens depuis qu'il existait dans le Bas-Congo? Mais on nous a présenté le Bundu Dia Kongo comme une secte politico-religieuse ou politico-mystique. C'est cela, c'était la première vision. Mais à imaginer qu'il détenait une armée, ça, je dirais à ce niveau, que c'est de la défaillance des services des renseignements congolais. Parce qu'on ne pouvait pas laisser des histoires comme ça perdurer. Mais qu'on soit arrivé à ce niveau, ça veut dire qu'il faut allier les deux à la fois. Même pour réussir une bonne opération, ça veut dire qu'il faut disposer de suffisamment d'informations. Dans le cas de l'État congolais, dans beaucoup de cas, je dirais, on ne prend pas suffisamment le temps de s'informer. On se contente des bribes d'informations. Maintenant, vous êtes en train de révéler au grand public qu'il existait et qu'il existe des camps d'entraînement de Bundu Dia Kongo. Mais on le savait. Ou les séries de
l'État. Oui, on avait déjà vu ce genre d'images à la télévision nationale.
Oui, mais ce qu'on arrive aujourd'hui à expliquer, c'est que ça veut dire que c'est un travail qui n'a pas commencé aujourd'hui. Certainement que ça date de plus de 5 ans. Certainement que ça date de plus de 10 ans. Ça veut dire quelque part, les services de l'État, les services de renseignement ont failli à leur mission. Mais justement, pour une autre leçon de clause que je devrais apporter à ça, je dois affirmer que finalement, Bundu Dia Kongo avec son chef Nemanda Sem sont en train de donner des communications contradictoires. Le premier moment de communication, c'est une demande sociale, une présence assez réelle de l'État, l'État qui a abandonné un certain nombre de territoires, mais il y en a beaucoup autour de territoires où l'État n'a plus jamais existé. Je connais des espaces comme le secteur de Chitadi, de Mboi, de Kavula dans le territoire de Kazumba, où depuis 40 ans, ou depuis que l'indépendance, l'État n'a jamais construit même pas une hutte. Mais ces gens-là ne se sont pas proposés de la réhabilitation de l'État en faisant la guerre ou en
faisant... Même au nord, au nord et au sud, où il y a des endroits qui sont contrôlés par les miliciens auto-rwandais, où l'État n'est pratiquement pas présent.
Oui, c'est cela. Dès lors que l'État n'est pas présent à ce lieu, il ne suffit pas de prendre de nouveau des armes pour justifier. Un autre élément qui poserait problème au niveau de Bundu Dia Kongo, c'est que aujourd'hui, Nemanda Sem est en train de réclamer la modification des frontières de l'Afrique. Or, vous savez que l'Union africaine est bâtie autour de ces principes, l'intangibilité des frontières issues de la colonisation. Or, en ce moment-là, pour un député, aujourd'hui que nous parlons de la diplomatie parlementaire, il n'est pas à mesure de dire, lorsqu'on veut modifier telle ou telle frontière, c'est pratiquement toute l'Afrique qui va connaître des problèmes. Aujourd'hui, on peut même se poser la question, est-ce qu'il y a une même demande au niveau de l'Afrique du Congo, au niveau du Gabon et au niveau d'Angola, le besoin de créer ou de restaurer le royaume Congo? Est-ce que ce besoin se présente dans ce pays-là? Parce que c'est véritablement ça le problème, au-delà de la guerre qu'il a tenté d'engager sur plusieurs fronts. Est-ce que nous, en tant que jeunesse, on a connaissance que quelque part, il y a des gens qui veulent restaurer le royaume? La province comme le Kasai occidental, il y a le royaume Kouba qui est encore intact. Il y a des royaumes qui ont disparu, mais faut-il les restaurer tous au même moment?
Nous avons également, merci beaucoup Mbuyal Mangal, nous avons également en ligne depuis Bénin Nord Kivu, Nikes Kibelbel, vous êtes éditeur du journal Les Coulisses. Avec les opérations de démantèlement de la police, est-ce que l'option a été finalement prise par le gouvernement de mettre fin à l'existence de ce mouvement politico-religieux Bundu Dia Kongo?
Il faut d'abord noter un malheureux constat. Souvent, on s'attaque aux conséquences de fait au lieu de s'attaquer d'abord aux causes. On laisse les causes germer et quand on arrive devant des faits accomplis, on fausse totalement les jeux et finalement, des fois, la réaction n'est pas proportionnelle à l'action. Mais il faut dire que le problème qui se pose, on peut le situer à un autre niveau. Nous avons d'un côté une secte politico-mystico-religio-mystique, que vous voulez, et comme vous voulez, qui est pratiquement à la recherche de l'identité meurtrière contre l'altérité, c'est-à-dire qui ne veut pas la présence des autres et qui considère les autres Congolais comme étrangers sur le sol du Bas-Congo. Et cette secte qui utilise la violence, et de l'autre part, nous avons l'État, la police, représentée par les forces de l'ordre. Mais s'il y avait une justice distributive, une justice participative, on amènerait le coupable devant le tribunal. Et à ce moment-là, il y aurait moins de cas. Mais notre État, il est faible, et quand l'État est faible, il recourt souvent à la force qui est disproportionnée. Donc, aujourd'hui, discuter sur la réaction des forces de l'ordre, je pense qu'on déplace un peu le problème, parce que le problème fondamental, c'est l'action posée. Pour qu'il y ait réaction, il y a eu une action. Et cette action a été conforme. Et parce que l'action, comme le dit Médard et Lidor, l'action de Bundu Dia Kongo menace même l'intégrité même du pays, menace même les pays en tant que nation et État. Alors, je ne dis pas qu'il faut nécessairement tuer pour régler le problème, mais si on commençait aussi par le Parlement, parce que le président de ce mouvement est parlementaire et député, qu'est-ce qui manque au Parlement si réellement tout ce qu'on reproche à Bundu Dia Kongo est vrai? Qu'est-ce qui manque au Parlement de commencer par des choix les députés et les traduire en justice? Ça aussi, c'est une possibilité, au lieu de discuter sur la proportionnalité des forces sur le terrain.
Mais est-ce qu'il ne faudra pas aller jusqu'au bout, puisqu'il y a aussi des exactions signalées du côté de la police, sanctionner également les responsables de la police qui envoient leurs hommes en opération? Est-ce que ça ne serait pas aussi le cas, s'il faut être juste, sanctionner peut-être le leader de ce mouvement et peut-être aussi les autorités de la police?
Mais c'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire que tout ce qui arrive, c'est la conséquence de la désorganisation. Parce que si la justice travaillait convenablement, il y aurait moins de dégâts peut-être. Et si la justice peut prendre, parce que la justice n'est pas seulement pour les gens de Boundou de la Congo, même aussi pour la police qui outrepasse. Donc à ce moment-là, on prendrait les mauvais ordres ou les ordres mal exécutés, ces gens-là seront arrêtés et jugés conformément à la loi. Mais nous avons un État qui est faible, et nous avons ce qui entraîne automatiquement que là où la police se prévaut comme État, agit, utilise une force assez brutale, bien sûr, comme les deux confrères l'ont bien souligné, face à des gens armés, vous n'allez pas demander aux policiers de tendre la main comme à l'époque de Jésus, on frappe, on gifle la joue gauche, puis on tend la joue droite. Donc, les policiers, ils se défendent que nous sommes en légitime défense. Mais, s'il y avait la justice allait corriger cette illégitime défense, si vous voulez, et du côté de Bundia, comme du côté de la police. Donc le problème se pose encore sur les États généraux, et de la police, et de la justice, un peu sur tout le monde, et sur même l'existence de l'État. L'État est faible, et il ne faut pas avoir peur de le dire, et quand l'État est faible, il y a des foyers de tension partout. Et Médar le dit, au Kassai, peut-être on n'a pas encore levé les tons parce qu'on a appliqué de l'État, mais dans tous les coins du pays, tous ceux qui veulent lever les tons, tous ceux qui veulent mettre en péril l'intangibilité du territoire, comme moi, ils le feront, parce que l'État arrivera toujours en retard.
Excusez-moi.
On commence par les causes.
Excusez-moi, oui. Michel Kibelben, est-il légal d'éliminer ou de démanteler ce mouvement politico-religieux dans la mesure où la Constitution donne droit à tout le monde d'adhérer à une religion ou à une autre?
Mais il est légal. Mais là, vous posez un problème fondamental parce que il faut revoir aussi, il faut rentrer au ministère de la Justice pour voir sous quelle étiquette Boundou de la Congo s'est enregistré. Est-ce qu'il faut accepter toute association qui s'est enregistrée malgré l'idéologie qu'il porte? Non. Je pense qu'il faut revoir, il faut rentrer au ministère de la Justice, donc à l'État. Il faut rentrer au niveau des cours de tribunaux, il faut rentrer au niveau du ministère de l'Intérieur, pour voir réellement et revoir. Vous savez, à l'époque, on parlait des associations ou des églises qui faisaient des tapages nocturnes, à qui on demandait de fêter ou de réglementer leur horaire. Donc, il faut revoir tout cela. Et nous disons qu'il faut que l'État utilise la force proportionnelle, mais surtout quand l'État est en danger. Je pense que des fois, et certains dérapages peuvent se justifier. Parce qu'effectivement, là, nous sommes dans une situation où l'État, où la nation pratiquement est en danger. Donc, aujourd'hui, c'est la police qui réagit, mais demain, il y a la population du Bas-Congo qui peut aussi réagir aux attaques de Boundou. Donc, il y aura pratiquement une pagaille généralisée.
Merci beaucoup. Vraiment, nous avons très peu de temps. Juste ajouter un petit mot, Ludo, avant de terminer, vraiment en 30 secondes, et ensuite nous donnons la parole à Mbuya Mangala.
Oui, un petit mot, c'est par rapport à l'enquête qui a été annoncée par la MONUC. Moi, je pense que là aussi, il faut que les choses s'éclaircissent. Les enquêtes, finalement, dans ce pays, on en a eu beaucoup. Je crois, pendant la transition, on a eu beaucoup de cas ici, des tentatives de coup d'État, on a eu des cas de massacres, même avérés à l'Est, tout comme dans d'autres parties du pays. On a diligenté des enquêtes qui n'ont jamais produit de fruits. La récente enquête que la MONUC a menée à l'Est, le massacre des 30 civils dans le village, je ne sais pas, de Kalongue ou quoi là-bas, imputé aux hommes de Laurent Kunda. Laurent Kunda a riposté, il s'est retiré des travaux, donc des suivis de la conférence de Goma. Curieusement, la MONUC a paniqué, il est allé même rencontrer Laurent Kunda pour le supplier de revenir aux travaux. Et
non,
on ne parle pas
entendu,
de ça.
Il y a une commission d'enquête indépendante.
Oui, mais en ce qui me concerne, très sincèrement, je dois dire que ce sont des enquêtes qui viennent toujours en retard et il n'y aura toujours pas de suite. Je crois que la meilleure politique, c'est de prévenir.
Oui, Mouyal Mangal, un mot, juste.
Voilà, restons dans la prévention, pour qu'on réalise, qu'on étudie profondément les besoins de l'État, les besoins de la population congolaise, pour qu'il n'y ait pas à tous les niveaux de Boundou de la Congo. Parce que ça arrive aujourd'hui au niveau du Bas-Congo, mais je me dis, s'il y a une concertation, une analyse assez qui permettrait que des histoires comme ça ne se répètent plus à travers la République.
Mais excusez-moi, Mbouyal, la police a-t-elle démantelé les quartiers généraux de Boundou de la Congo? Mais est-ce que par la force, la police peut également mettre fin à cette idéologie qui est plutôt...
Non, mais maintenant, on se retrouve face à deux problèmes. Le premier niveau du problème, c'est l'idéologie. Or, l'idéologie, c'est un élément culturel. Il est difficile de détruire cet élément culturel. Mais lorsqu'on entre dans le cas de la force, le cas d'entraînement, c'est alors qu'intervient la police. Du moment qu'on est en train de rejeter l'autre, la xénophobie, tel qu'a dit le représentant du secrétaire général. Donc le problème n'est pas l'idéologie. Le bout du diacon comme religion ne pose pas problème.
Mais on leur a demandé...
L'instrumentalisation des armes. Je dis, dès lors que l'Église, la religion quitte l'univers de la foi... pour utiliser de la violence, c'est à ce niveau qu'intervient la police.
Mais on a entendu certaines autorités du Bas-Congo demander aux adeptes de Bounoudia-Congo d'adhérer à d'autres religions et à le faire par écrit.
Là, ça pose problème encore. Il faut démontrer si le Bounoudia-Congo, c'est une foi. C'est un élément, à la limite mystique. L'explication nous dépasse parce que justement, ça relève de l'univers du mystique.
Merci beaucoup, Mbuya Mangal. L'actualité cette semaine, c'est aussi les affrontements au Nord Kivu entre les miliciens des patriotes résistants congolais Pareco et les FRDC de la 15e brigade, ainsi qu'avec les miliciens hutu-rwandais des FDLR. Au Nord Kivu, donc, la situation restait tendue ce jeudi dans les villages de Kasege, Lukuka, Matende et Makofi, à 2 km de Kibakwa. Jeudi matin, des tirs ont été entendus dans ces localités. Les affrontements ont opposé les éléments de la 15e brigade FRDC basée à Kasege et les Maïmaï du Pareco. Information confirmée par une autorité locale de Kasege qui ajoute que toutes les activités étaient paralysées et une vive tension régnait au sein de la population. Le point avec notre consoeur sur place, Sipamaguru.
D'après les témoignages des commandants Pareco à Kasehe, les tirs ont repris vers 9h locales lorsqu'une partie des éléments de la 15e brigade intégrée FRDC voulait désarmer des forces, un groupe des Pareco qui se sont retranchés à Kasehe. Pendant cette opération de désarmement, les FRDC sont parvenus à arrêter une dizaine des Pareco. C'est pour éviter ces arrestations que les Pareco se sont dirigés vers d'autres positions. C'est ce mouvement de repli des Pareco qui a provoqué la panique au sein des habitants des Makofi, des Lukuka et Matenda qui ont cru à une attaque. Du coup, les écoles ont été fermées et les habitants ont quitté immédiatement les champs, paralysant ainsi toutes les activités. Notons que la même source indique que dans les affrontements d'hier, les Rudis, après avoir pris les contrôles du village des Kibakwa, ont tout pillé sur leur passage et ont emporté le bétail et autres biens avant de se retirer à Kanyati, Goma.
Il faut ajouter qu'au cours de cette semaine, ces mêmes miliciens du Pareco ont aussi affronté, toujours au Nord Kivu, précisément à Kibakwa, 150 km au sud-ouest de Butembo, les miliciens hutu-rwandais des FDLR El Rudi. Allons directement à Beni, où intervient au téléphone Nikez Kibelbel. Je rappelle que vous êtes éditeur du journal Les Coulisses, paraissant à Beni, au Nord Kivu. Comment vous réagissez face à ces affrontements entre, d'une part, le Pareco et les FRDC, et de l'autre, entre le Pareco et les FDLR El Rudi?
Oui, en un mot, tout se résume en business. Bon, ça peut choquer les gens, mais la réalité, c'est celle-là. Tout se résume en business. Vous savez, ces guerres ethniques opposent en réalité les grandes compagnies minières mondiales et certains opérateurs économiques locaux. Mais ils sont instrumentalisés. Donc, le vrai problème, il n'est pas normal que Pareco, qui dit défendre le pays contre l'agression extérieure, puisse attaquer au FARDC, et puisse attaquer au FDLR. Donc, vous voyez un peu cette confusion qui règne. Nous ne cesserons de le dire. Notre pays est en proie de conflits tribaux parce que il y a un enjeu stratégique de taille. Et c'est cet enjeu qui est à la base de toute la désorganisation de la société, de la désorganisation régionale ici. Les raisons qu'ils avancent ne tiennent pas debout. C'est du business. Chaque groupe rebelle occupe une portion de terre, soit il exploite, il y a des taxes qu'il fait payer, soit il y a des richesses sous terre qu'il doit pratiquement exploiter. Et il les gère avec beaucoup. En fait, ce sont des minimes, des petits états dans l'état congolais, et chaque seigneur de guerre gère son état. La réalité, c'est là. Ici même, il n'y a pas longtemps, pour peut-être, je vais déguiser mon. Au mois de février, ici, dans une réunion du groupement, de groupement ici, mais le président a clairement déclaré lors de la réunion que nous savons que les opérateurs économiques ici cachent des armes dans leurs fermes et utilisent les maïmaï. Cette déclaration, elle est vraie, elle est grave, mais elle est vraie. Et c'est toute la réalité qui se passe ici au Kivu, notamment, et où il y a les affrontements aujourd'hui, les alliances changent au fil des temps.
Mais justement, à propos de ces alliances, certains analystes affirmaient que des miliciens comme ceux du PARECO étaient de fait alliés au FDLR parce qu'ils ont, semblait-il, un ennemi comme le CNDP. Mais comment ce retournement des situations où ils se retournent les armes, c'est-à-dire le PARECO et les FDLR?
Oui, mais c'est difficile, c'est difficile. C'est difficile à expliquer parce que, comme j'ai dit, tout se résume au niveau du business. Pour ceux qui sont ici, ils savent que le Mai Mai, notamment les PARECO, et selon ce qu'ils déclarent, c'est protéger le pays contre l'invasion, l'agression des Hutus-Rwandais. Mais aujourd'hui, comment les PARECO peuvent s'attaquer aux FARDC, ça ne s'explique pas, même s'il y a d'autres provocations.
Et juste s'attaquer également au FDLR, comment cela peut s'expliquer?
Nous disons que tout se résume en business, parce que même les PARECO ou les CNDP ou autres groupes, ils sont incapables de dire exactement pourquoi ils font la guerre. Ils font la guerre au nom de qui? Parce
Merci.
Que chaque jour, il y a des déplacés qui sont abandonnés, il y a la désorganisation des écoles, ainsi de suite.
Merci.
Et si on veut se renvoyer pas détruire le peuple, qu'on veut gouverner, c'est pas normal.
Merci beaucoup, Ludon Balekinaï. Je rappelle que vous êtes journaliste présentateur au sein de la chaîne de télévision privée de Kinshasa, Congo Web. Comment vous faites la lecture de cette actualité à l'est du pays?
Bon, je crois que ce qui se passe actuellement à l'est de la République démocratique du Congo est dû nécessairement au fait qu'il n'y a pas eu, jusqu'à ce jour, un suivi sérieux des résolutions de la conférence de Goma, qui a débouché par l'acte d'engagement qui est en train d'être violé par les signataires eux-mêmes. Et là, nous revenons justement à ce que je disais autrefois, il y a un dilemme vraiment, et il faudra beaucoup de temps, si on n'a pas beaucoup de lucidité, pour pouvoir en sortir. Parce que c'est comme Nikkei l'a dit tout à l'heure, on n'arrive pas à comprendre. D'abord, pour ceux qui ne le savent pas, d'après les informations que nous avons reçues quand j'étais en Goma, le PARECO là, c'est essentiellement constitué des Hutus congolais, si je peux ainsi dire. Et tandis que les autres, les FDLR, ce sont les Hutus rwandais. En fait, ce sont les mêmes gens, mais qui sont, comme Nikkei l'a dit, instrumentalisés. Parce que quand nous étions à Goma, à la conférence de Goma, on nous a révélé que la plupart des conflits à Goma sont alimentés par des opérateurs économiques. Qui savent, par exemple, que dans les territoires contrôlés par le PARECO, ils ont besoin de la cassitérite, ou du coltan, ou de n'importe quel autre minerai. Et pour autant qu'ils sont en connivence avec ces groupes armés-là, les minerais-là arrivent à Goma, peut-être sans qu'ils payent des taxes, par des voies frauduleuses. Il y a des minerais même qui sont transportés par des vaches. On donne l'impression que c'est une colonne de vaches qui va, je ne sais pas, vers telle savane pour brouter de l'herbe. Mais sur les dos, ce sont des minerais transportés
par des pays voisins.
Et ce sont ces gens-là qui sont entretenus par les opérateurs économiques de Goma. Moi, j'étais content quand le chef de l'État a rencontré les opérateurs économiques de Goma, je pensais qu'il pouvait être sérieux pour dire au chef de l'État ce qu'ils font réellement et qu'est-ce qu'il faut pour que l'État les aide à acheter leurs minerais, à faire leurs affaires, sans qu'ils aient vraiment à instrumentaliser les groupes armés de la République démocratique du Congo. Je voudrais terminer par dire que la conférence de Goma risque d'échouer. Ce n'est pas un souhait, je ne prophétise pas sur le sujet de cette conférence, dans la mesure où, vous vous rappelez, confrère, quand nous avons tenu cette conférence, nous avons créé, en tant que journaliste, un réseau national des journalistes pour la paix, la sécurité et le développement. Nous avons, moi-même personnellement, en tant qu'initiateur de cette initiative, écrit à l'abbé Marmal, qui était le président de la conférence, qui est aujourd'hui le président, le coordonnateur national du programme Amani, pour obtenir le soutien, afin d'aider tous les journalistes qui ont couvert cette conférence de Goma à vulgariser les résolutions, à faire passer les messages par un soutien médiatique aux destinataires concernés par cette problématique de l'insécurité à la République du Congo. On a réservé copie au chef de l'État, au ministre de l'Intérieur, au président de l'Assemblée nationale, à toutes les instances, même au niveau sous-régional, pour que nous soyons soutenus, parce que si nous réussissons, nous pensons que cette expérience d'appui sur le plan médiatique des résolutions de la conférence de Goma peut un jour aider aussi les autres pays de la sous-région et même d'autres provinces en cas de résurgence des pareils conflits.
Quel est le résultat?
Rien jusqu'à ce jour. L'abbé Malumal n'a jamais répondu. J'ai compte lui écrit encore une lettre de rappel. Voilà ce que nous vivons dans le Bas-Congo. Si nous avons été soutenus, en tant que jeunesse, nous ne demandions pas de l'argent à mettre dans nos poches, c'était pour servir les intérêts de la nation. Mais rien n'est fait. La conséquence, c'est que les acteurs, les signataires de l'acte de Goma sont les premiers à passer dans les médias pour véhiculer les messages de haine qui, aujourd'hui, ont pour effet immédiat la reprise de la guerre. Ce qui est déplorable.
Merci beaucoup, Mbouyal Mangas. Je me tourne vers vous. Donc, ces affrontements entre les Maïmaï et les FARDC, Maïmaï, le PARECO contre les FDLR, c'est plutôt des enjeux économiques.
ça a été démontré. Notre confrère Nikes, qui est en train de dire sur place, le dit avec beaucoup d'autorité. Moi, j'aimerais plutôt aborder la dimension diplomatique de la chose. Moi, j'ai comme l'impression que nous sommes en train d'assister à un conditionnement psychologique des citoyens congolais pour qu'ils apprennent à perdre le Kivu. Donc, c'est comme si on est en train de préparer le Congolais, on est en train de préparer une sorte de... On est en train de baliser la voie pour le Kosovo en République démocratique du Congo. Ce qui est en train de se passer au Nord Kivu, c'est exactement ça. Pour qu'au fur et à mesure que le dossier avance, ça néantit, on finira par créer une politique de peuplement, faire en sorte que vous dites non, l'État congolais est incapable de gérer cet espace, qu'on permette à tout ce fauteuil de troubles de devenir des autorités de fait. Voilà ce qui est en train de se préparer. Et puis, pour preuve, en attendant, il n'y a aucune explication. Un certain nombre de missions diplomatiques commencent à installer à Goma de consulats. Qu'est-ce qui justifierait dans l'immédiat la création de consulats à Goma et dans l'est du...
Est-ce que ce n'est pas pour faciliter les négociations entre le gouvernement, les différents...
Même à partir de Kinshasa, on peut bien négocier. Aujourd'hui,
c'est à plusieurs milliers de kilomètres.
Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler avec Nikes grâce au téléphone. Donc, on n'a pas besoin de s'installer nécessairement dans le Nord Kivu. Mais pourquoi ne s'installe pas à Loz pour créer le consulat à Loz, pour faciliter le même contact?
Mais la Mondu qui est présente là-bas.
Oui, mais il n'y a pas de consulat. Donc, c'est ça le niveau d'inquiétude. C'est comme si on est en train de préparer les Congolais à accepter qu'un jour, cette partie-là soit cédée à quelqu'un que nous allons identifier. On ne va pas identifier un jour. Donc, voilà le contexte dans lequel ces choses sont en train d'être discuté.
Nikes Kibelbel, vous intervenez à partir de Beni, au Nord Kivu. Mais finalement, que faire pour mettre fin à cette nébuleuse de mouvements politico-militaires à l'est de la République démocratique du Congo et justement à l'insécurité après la tenue de cette conférence sur la paix dans les deux Kivu qui a coûté beaucoup d'argent? Comment faire pour mettre fin à cette insécurité finalement?
Oui, je pense qu'il n'y a pas de solution miracle. Comme Igor vient de le dire, le vrai problème c'est la diplomatie. Vous savez, il semble que la diplomatie moderne aujourd'hui a pour fonction de gérer les crises et les relations commerciales. Il faudrait que notre diplomatie, c'est-à-dire notre pays, essaie de gérer ses relations commerciales, c'est-à-dire... Par exemple, pour le coltan ou le pyrochlore, comme nous l'avions cité l'autre fois, que notre diplomatie essaie de voir, ça quitte l'Ouest, ça quitte le Nord Kivu, c'est la pierre, ça transite par Kigali, l'Allemagne, les États-Unis, aller négocier avec ces gens qui achètent ou qui vendent les armes contre les richesses. Dès lors que la diplomatie cessera d'être la diplomatie de bureau pour être une diplomatie commerciale et de crise, des relations commerciales et de crise, à ce moment-là, on va effectivement négocier avec les marchands d'armes, avec ceux qui ont besoin de matières précieuses, et l'État congolais va leur, en retour, va leur fournir les matières contre, par exemple, le développement, et cesser de contourner l'État pour passer à travers des individus. Je pense que le vrai problème, c'est le problème de la diplomatie.
Est-ce que ce n'est pas aussi ça le
diplomatie là?
Est-ce que ce n'est pas aussi
oui.
Excusez-moi, est-ce que ce n'est pas aussi ce qui a poussé à la relance de la communauté économique des États, des pays des Grands Lacs, la CPGL?
Mais oui, mais cette relance, elle est bonne. Mais si nous restons toujours dans un état psychologique, comme l'a dit Médard, dans un état psychologique d'assiégé, nous irons loin, parce que vous savez, il y a aussi à boire et à manger dans cette histoire de CPGL. Il est dit par exemple qu'il faut ouvrir les frontières, mais l'exiguïté du Rwanda et le problème des terres signifie quoi? Que le Rwandais, comme ça, de façon, comment dirais-je, terre à terre, viendrait au Congo parce qu'ils ont comme les terres. Donc il faut que nous ayons un état fort, une diplomatie moderne, comme je le souligne, qui irait négocier les affaires commerciales. Et à ce moment-là, on mettrait fin à la crise. Et cette diplomatie ne va pas s'arrêter seulement aux affaires commerciales. Nous avons des frontières qui sont poreuses, des frontières où tout passe. Parce que, même pour la police,
rapidement,
nous n'avons pas assez d'effectifs. S'il y avait assez de policiers, assez de militaires, avec l'immensité de notre pays, ça aurait été autre chose.
Merci beaucoup.
Il y a combien de frontières au Kivu où il n'y a personne, où les armes entrent sans même qu'il y ait. Il y a la fraude douanière, il y a des conteneurs qui passent sans être vérifiés, il y a la sous-évaluation, il y a même la mauvaise qualification des marchandises. Alors, tout cela, c'est de l'insécurité, c'est de la crise, c'est des business en même temps. Parce que ces commerçants qui peuvent facilement rendre les armes contre les matières premières, mais ils ont beaucoup d'argent à l'état record. C'est pourquoi je pense qu'il est bon que notre diplomatie soit cette diplomatie qui va
l'économie, c'est ça.
Qui va effectivement gérer les relations commerciales. Ça, c'est très important.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Malheureusement, nous n'avons plus beaucoup de temps. 30 secondes, s'il vous plaît.
À 30 secondes, je voudrais dire, pour évoquer cette situation qui a prévalu entre la 15e brigade et le PARECO, que nous avons été à la conférence de Goma. En tout cas, il y a eu tout un processus graduel pour arriver au désarmement. Moi, je ne pense pas qu'une mission particulière avait été donnée au PARDC ou à une brigade de PARDC de désarmer notre groupe armé. On avait demandé que tous les groupes armés campent sur leur position jusqu'au moment où les organes créés par la conférence de Goma devaient être effectivement en fonction pour arriver au désarmement.
Vous voulez dire que c'est une erreur
en tout cas, après que j'ai couvert la conférence de Goma, on n'a pas signé une mission à une brigade de PARDC.
Merci beaucoup, Ludor Balekelaï. Notre troisième et dernier thème, c'est le sommet de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, ayant réuni cette semaine à Kinshasa 7 chefs d'État ainsi que le premier ministre congolais et 2 membres du gouvernement du Gabon et du Cameroun. Mais commençons tout d'abord par l'actualité. Il faudra plus de 26 millions de dollars américains pour financer le fonctionnement de la CEAC en 2008. Un budget qui devait être validé ce vendredi par les ministres du budget de la communauté. Ce, après son adoption jeudi par les experts des 10 pays membres de la CEAC. Ce budget de la communauté économique des États de l'Afrique centrale connaît une augmentation d'un tiers par rapport à l'année dernière. La RDC devrait contribuer à ce budget avec près de 2 millions de dollars américains, sans compter les arriérés. Le point avec notre confrère Georges Kamujova.
La part de la RDC représentera 10% des cotisations des États membres en 2008. Le vice-ministre congolais des Affaires étrangères a rassuré les experts que la RDC ferait tout pour s'acquitter de ses obligations. Le faible budget de la CEAC est dû en partie au non-paiement des contributions par ces États. Sur la liste des arriérés, la RDC est en tête avec 9 300 000 dollars de dettes. Par exemple, sur 4 millions attendus d'elle l'année dernière, elle n'en a payé qu'un million. Par contre, le Congo-Brazzaville a donné la totalité de ce que l'organisation attendait de lui en 2007. Cela se comprend peut-être parce que le pays de Denis Sassou Nguesso présidait l'organisation. C'est ce qui fait d'ailleurs dire au professeur Tiker Tiker, secrétaire général adjoint de la CEAC, que Kinshasa, qui préside en ce moment la CEAC, a donc là un exemple à suivre. Et pour paraître encore plus crédible, les autorités congolaises doivent liquider leurs arriérés, déclare un expert gabonais. Alors, contribution 2008 plus arriérés, 11 millions de dollars américains à verser cette année à la CEAC.
Merci beaucoup, Giorgio Kamujova. Je me tourne vers vous, Mbuyal Mangal. Je rappelle que vous êtes journaliste et analyste politique à la télévision nationale RTNC. La RDC doit près de 11 millions de dollars à la CEAC. Et le dernier sommet de cette organisation a eu lieu ici pour traiter du problème tchadien. Est-ce que vous pensez que la CEAC est à la mesure des enjeux ou des défis qu'elle a à faire face?
Ben, je dirais non. Tout subitement, je dirais non, parce que la CRC représente justement, comme elle représente l'Afrique centrale, et l'Afrique centrale, nous devons le reconnaître, est le maillon faible de toute l'Afrique. Prenez les infrastructures routières, les possibilités de déplacement en Afrique centrale posent plus de problèmes qui se posent dans d'autres espaces sous les journaux de l'Afrique. Et puis pour revenir au sommet, ça veut dire dans chaque structure, je dirais dans chaque organisation, il doit y avoir un pays pilote. Or, dans la CEAC, le pays pilote, c'est la République démocratique du Congo. Or, la République démocratique qui est confrontée au problème que nous sommes en train de déplorer. Donc, la République démocratique du Congo n'est pas à mesure d'imposer la paix à la CEAC pour revenir aux matières traitées au niveau du sommet de Kinshasa. Donc, on ne sait pas imposer la paix parce qu'on n'a pas la capacité d'amener les militaires sur un autre front. On attend plutôt d'être assisté. Voyez-vous, quand il y a un problème au niveau de la CEDEAO, c'est le Nigeria qui se présente et apporte la paix. Aujourd'hui, s'il y a un autre État qui puisse le faire, C'est certainement l'Angola. Et c'est l'Angola qui l'a déchappé.
Qui était représenté par son premier ministre.
Oui, c'est cela. Tout ça, mais on est face au problème de leadership. C'est l'Angola qui a dû déployer ses troupes pour ramener la paix en République du Congo et pour ramener la paix en République démocratique du Congo. Moi, je considère que la géopolitique en Afrique centrale a commencé à se déplacer. Dès lors que la République démocratique du Congo s'est présentée comme le faible des faibles, et bien donc les choses, l'initiative commence à s'échapper. Tout ce qu'il faut saluer, ce qui est arrivé, mais il faut davantage faire. Je rappelle que le sommet le plus important ou le plus grand qui s'est déroulé dans notre pays date de 1968. C'est le sommet au moment où le maréchal Mobutu, à l'époque il n'était pas encore maréchal, le général Mobutu présidait l'Union africaine. À l'époque, nous sommes en 68. Et la cité de l'OIA porte ce nom grâce à ça. Mais depuis lors, on n'a plus travaillé dans le sens à attirer davantage des États. On n'a pas créé des infrastructures pour que davantage nous puissions nous donner des espaces de visibilité. Il y a beaucoup d'efforts qu'il faut faire, surtout payer l'argent. Parce que dès lors qu'un État a des arriérés, cet État ne peut pas placer son personnel dans ces organisations. C'est une défense déplorable.
Merci beaucoup, Mbuyal Manga, leader Balekela. Il y a cela quelques jours, le président soudanais et tchadien ont signé un accord de non-agression, si mes souvenirs sont bons, mais apparemment ici, le président Déby semble ne pas être du tout satisfait parce que le nom du Soudan n'avait pas été cité comme pays agresseur du Tchad. Finalement, est-ce que ce sommet aura produit quelque chose, puisque c'est à Dakar que les deux présidents ont signé un accord de paix?
Bon, avant d'en arriver là, permettez que je place le mot par rapport à ce que mon confrère venait de dire tout à l'heure, comme quoi la RDC n'est pas en mesure d'imposer la paix au niveau de cette organisation sous-régionale. Je pense que là, il faudrait peut-être rentrer dans la mission même de la CAC, qui consiste justement à l'intégration sous-régionale à divers niveaux sur le plan politique, économique, sécuritaire et consorts. Et je pense que la République démocratique du Congo, bien qu'étant un pays faible actuellement sur le plan militaire, n'a pas organisé ce sommet en tant qu'État tout court. C'est en tant qu'État assumant la présidence en exercice de la CAC. À ce titre, je pense que la RDC peut apporter la paix dans un pays membre de cette organisation, dans la mesure où les pays membres se sont organisés pour avoir une armée, ce qu'on appelle la FOMAC, Force Multinationale de l'Afrique Centrale, dont l'État-major se trouve au Gabon.
Mais qui n'est pas encore opérationnel.
Oui, oui. Non, en fait, il y a déjà des troupes qui sont en attente dans les différents pays membres. Vous avez vu, le chef de l'État était au Tchad l'année passée pour assister à la première parade des troupes de la CAC. Donc, il y a des troupes en attente dans d'autres pays.
Dans les recommandations du dernier sommet, on n'a pas entendu dire
que c'est diplomatique, ça ne peut pas se
militaire de la CAC.
La diplomatie, ça ne peut pas se dire de cette façon-là. Il y a toujours une façon voilée de le faire. Le sommet, d'ailleurs, s'est tenu pendant plus de 6 heures à huis clos. Il y a des choses que les chefs d'État se sont dites qui ne peuvent pas nécessairement figurer dans le communiqué final. Donc, ça, c'est une mise au point.
Rapidement.
Pour revenir maintenant au sommet, au 11e sommet de la conférence islamique qui s'est tenue à Dakar, je pense que le sommet de Kinshasa a été a préparé le lit au 11e sommet de la conférence islamique à Dakar, dans la mesure où le président Idriss Déby, qui était stressé à la suite des attaques rebelles dans Djamena, la capitale, est parti avec l'assurance de ses pairs de la CAC et que la conférence de Dakar n'a fait qu'asseoir déjà les prédispositions psychologiques avec lesquelles il est parti de Kinshasa. Et donc, l'accord qui a été signé mérite la peine d'être soutenu. Il a eu aussi un concours psychologique quelque part là avec le sommet organisé par le président Kabila.
Nickel, nous sommes à la fin de l'émission. Vous n'avez qu'une seule minute pour réagir par rapport à ce sommet, s'il vous plaît.
Bon, je pense qu'il faut soutenir toute initiative qui vise à négocier, à dialoguer pour la paix. Mais il ne faut pas perdre de vue que tant que les armes continueront à être vendues et achetées, on assistera toujours à la désorganisation des régions entières, notamment en Afrique. Donc il ne faut pas se leurrer. La désorganisation de l'Afrique, notamment centrale, va continuer. Il suffit seulement que nous puissions faire un effort pour ne pas continuer à subir.
Merci beaucoup, Nickel Kibelbel. Merci à nos trois confrères pour leur participation à cette tribune de la presse. Anselme Siki Mumbere était à la réalisation et Mimi Kindou à la mise en onde. Merci à toutes. L'équipe de Dialogue entre Congolais, au revoir et bon week-end à tous.